C'est bon, tout le monde entend bien. Voilà, bonjour à tous. J'aimerais poursuivre ce que j'avais entamé il y a 15 jours avec ce symbolisme de la montagne, aller vers Dieu, rencontrer la présence de Dieu. Beaucoup d'expériences d'hommes, de femmes de Dieu dans l'Écriture sont liées à ce symbole ou à cette expérience spirituelle d'être sur une montagne. Justement, ça m'arrivait que ce soit dans la lecture, l'étude de l'écriture, le fait de l'enseigner, le fait de le prêcher, de l'écouter, d'être en prière, d'aller dans des rencontres, tout d'un coup on a l'impression d'être élevé, puis d'être au pied de Dieu sur quelque chose d'élevé. Éphésiens nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et il y a peut-être des moments dans notre vie où tout d'un coup on a l'impression d'être assis au pied de Dieu et que quelque chose en nous s'est illuminé. Jean-Marc a lu ce texte tout à l'heure d'Éphésiens, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez avec tous les saints quelle est la hauteur, la richesse, la grandeur. Voilà, donc un petit peu d'élévation dans la vie, ça fait du bien. Ça peut être pendant notre temps de culte quotidien, quand vous lisez l'Écriture tous les matins, tous les soirs, je ne sais pas. Quel est le temps que vous prenez dans la journée pour être au pied du Seigneur, à l'écoute, et puis laisser monter justement cette révélation par le Saint-Esprit. Sans illumination du cœur, de l'intelligence et de l'esprit, il n'y a pas de compréhension de qui est Dieu. Et ce qui est important pour moi par rapport à cette vie éternelle qui nous attend, c'est de connaître et de comprendre qui est Dieu. Alors c'est un défi. C'est une grande responsabilité, rencontre. On pourrait dire, oui, c'est un peu orgueilleux. Mais si Dieu se révèle au travers de son Fils, s'il nous laisse l'Écriture, eh bien, c'est pour que, au fur et à mesure des années, eh bien, quelque chose en nous s'éclaire, s'illumine. Aujourd'hui, on a toutes sortes de lumières. Chez moi, je viens de changer toutes mes ampoules. J'ai mis du LED. Ça ne consomme pas beaucoup, ça éclaire beaucoup. Le Saint-Esprit ne consomme pas beaucoup, mais il peut nous éclairer. Il peut nous éclairer, voilà, sur plein de ces mystères. Mystère de Dieu venu en chair au travers du Christ Jésus. Aller à la rencontre de Dieu sur la montagne de Dieu. On verra tout à l'heure ce que c'est qu'un symbole et quelle place il peut prendre dans notre cœur. On était parti il y a 15 jours de ce psaume 24, verset 3, « Qui pourra monter à la montagne sainte? Qui pourra s'élever jusqu'à ton lieu saint ?» En Israël, il y avait des temps de rencontre à Jérusalem. Jérusalem est la ville montagne. Alors, c'est bon, c'est des collines un peu hautes. Ce n'est pas des montagnes de 2000, 3000 mètres. Ça fait quelques centaines de mètres, mais ce sont des hauteurs. Aux époques anciennes, celui qui était sur une hauteur au niveau de la guerre, des combats, des conflits, eh bien, la plupart du temps, il avait gagné. Parce qu'il voyait les choses, puis il avait la vision et puis la vitesse pour combattre les ennemis qui étaient dans la vallée. Qui pourra monter à la montagne sainte? Qui pourra s'élever jusqu'à ton lieu saint? Celui qui a le cœur pur. Vouloir rencontrer Dieu sur une montagne, c'est au travers de la marche, au travers de... Quand on traverse la vallée, de se dépouiller des choses qui nous encombrent, des choses anciennes, et puis avoir envie de s'élever, d'avoir un moment privilégié de rencontre avec Dieu. On avait lu Ésaïe, chapitre 2, verset 3, « Venez, montez à la maison de l'Éternel, » à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Dieu habite sur des hauteurs. Et rencontrer Dieu, on verra, hein, c'est un symbole, mais c'est monter, c'est laisser monter en nous la présence de Dieu et le rencontrer. On prend un autre texte ensemble dans Ésaïe, au chapitre 54, le verset 10, c'est aussi un chant qu'on chante. La dernière fois, on avait chanté « Je veux monter sur la montagne ». C'est là que le rencontre Dieu. Aujourd'hui, on pourrait chanter « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas. » Montagne, c'est aussi symbole dans notre vie de la présence de Dieu, quelque chose de stable, quelque chose qui ne bouge pas. Et si elle bouge, eh bien, Isaïe dit à Israël, voilà, même si votre vie est déstabilisée, eh bien, même si les montagnes s'éloignent, les collines chancellent, c'est-à-dire les choses auxquelles on tient, qui sont des points de repère dans notre vie, même si ça bouge, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Pouvoir rencontrer Dieu, une stabilité, une sécurité. Je l'ai souvent... Voilà, depuis tout jeune, ça a été un des moteurs de ma vie, moi, c'est la sécurité. Je veux être en sécurité dans ma maison, dans mon travail, dans ma famille, dans l'église. Ça n'a pas toujours été le cas et j'ai toujours pris, ah, Seigneur, j'ai envie de vivre pépère, tranquille. Ça n'empêche pas d'avoir envie d'aventure et puis de prendre des risques, mais peut-être j'en ai trop pris. À partir de l'âge de 8 ans jusqu'à plus de 22, ma vie a été sans arrêt des bouleversements, des aventures plus folles les unes que les autres, où j'aurais pu y laisser ma peau. Et puis à un moment donné, on se dit, waouh, un peu de sagesse, un peu de plomb dans la tête. Et puis je me disais, waouh, Seigneur, je veux vivre en sécurité. Et le Seigneur a exaucé cette prière. J'ai eu une petite vie pépère, jardinier, plus de 30 ans à la ville de Lorient. Une vie pépère dans l'église, ah, c'est moins sûr. On traverse toutes sortes de temps et de moments. Je vous le relis, hein, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Dieu a envie de nous accompagner en sécurité. Et il y a tellement de textes, alors si vous lisez dans Ésaïe, j'ai souligné en vert dans Ésaïe, tous les textes qui parlent de bien-être, de sécurité, de Dieu qui agit dans nos vies. Je ne dis pas que tout le livre d'Ésaïe est vert, parce qu'il y a aussi beaucoup de prophéties qui secouent un peu, mais il y a tellement de moments d'alliance dans Ésaïe, où Dieu dit à Israël, voilà, t'es mon serviteur, voilà tout ce que je veux faire pour toi. Tout ce que Dieu veut faire pour nous, on peut le retrouver dans ce livre d'Ésaïe. C'est un livre extraordinaire. On avait vu la dernière fois la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et la Samaritaine qui disait, mais nos pères ont adoré sur cette montagne, en Samarie, en Garizim. Et Jésus lui dit, voilà, désormais ce ne sera plus sur une montagne ou à Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi de toute éternité, où on adorera Dieu, mais on adorera Dieu en... esprit et en vérité. Qu'on soit dans la nature, qu'on soit dans son lit, dans son fauteuil, sur une chaise, peu importe le lieu, l'endroit, le temps et les moments, on peut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et l'Esprit Saint peut nous conduire, voilà, sur cette montagne, ce temps de présence de Dieu qui nous change de notre vie ordinaire. Pouvoir être à l'écoute de Dieu, pouvoir entendre sa voix, pouvoir y répondre. Peut-être entendre une courte phrase, peut-être son prénom, son nom. peut-être entendre qui marchera pour nous. Un homme a entendu cette courte phrase. Qui enverrai-je qui marchera pour nous? Puis ils avaient dit, puisque je suis là, envoie-moi. Même si on se sent faim, même si on a beaucoup d'objections à faire, Seigneur, je ne sais pas, je ne suis pas, je... J'aimerais lire un texte avec vous, un texte un petit peu étrange. Il concerne les temps de la fin dans le livre de Daniel. C'est un livre assez compliqué qui demande beaucoup de... pas mal de travail. On lit un texte dans Daniel au chapitre 2, les versets 31 à 35. Daniel est un homme, je pense que lui, il a vécu sur une montagne. Il avait des visions de Dieu, il comprenait les choses mieux que tout le monde, et puis il nous a laissé une Apocalypse, un livre avec plein de révélations sur les nations du monde. Un roi a eu une vision, Daniel a été le seul à l'expliquer. Il a vu une statue avec une tête d'or, des bras en argent, une poitrine en argent, et puis des jambes, des reins, et puis des pieds mêlés de fer et d'argile. Et puis ce roi, tout intelligent qu'il était, ne comprenait pas la vision. Et Daniel a reçu l'explication, et il nous a dit, « Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine, ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Je regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer d'argile de la statue, les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble, devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Il est question d'une montagne, une montagne eschatologique, cette montagne des temps derniers, duquel se détache quelque chose de précieux. Cette statue, c'est l'histoire des nations. L'histoire des Perses, des Mèdes, des Grecs, des Roms qui vont conquérir le monde. Et puis un jour, de cette montagne qui est le Messie à venir, le Christ, une pierre va se détacher et frapper les nations qui vont s'écrouler. L'Empire romain a duré jusqu'au IVe siècle, puis après, il s'est délité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, économique où l'Union européenne est une résurgence de l'Empire romain avec tout le monde occidental. On nous parle aujourd'hui beaucoup dans les médias de guerre bloc contre bloc et certains sont un peu énervés. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un jour, à nouveau, une pierre va venir de cette montagne, de ce Messie qui vient et va frapper ce bloc des nations. Et tout ce qui se croyait fort et puissant, Dieu va souffler dessus et ça va disparaître. Il y a un avenir pour les nations en Jésus-Christ. Il y a quelque chose de nouveau qui peut naître. On lit les versets 44 à 45 de ce même chapitre 2 de Daniel. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination d'un autre royaume. Il brisera, détruira tous ces royaumes, lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, son explication est certaine. Les royaumes de ce monde disparaissent les uns après les autres. Moi qui aime l'histoire, j'ai pas mal de revues et de livres sur toutes les anciennes civilisations. Certaines ont été très très brillantes. Civilisation Khmer, cœur de l'Asie, qui ont construit des temples avec des systèmes d'irrigation impensables aujourd'hui, avec des lacs, des retenues. Aujourd'hui, on fait passer des petits appareils qui sondent le sol et on arrive à reconstituer les kilomètres carrés de cette civilisation Khmer. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Plusieurs rois ont régné, ont agrandi leur royaume et puis... Inca, Aztèque, Égyptien, je ne vous fais pas la liste. Tous les royaumes anciens, et à un moment donné, quelqu'un souffle dessus, et puis il n'en reste rien. Il en sera de même aujourd'hui. Cette pierre qui vient de la montagne, ce Messie à venir, le christianisme, la vie du Christ Jésus a déjà irrigué les nations depuis 2000 ans. Puis en ce moment, c'est difficile de comprendre ce deuxième retour de Jésus, comment les choses vont se faire. Alors, c'est un thème que je travaille depuis pas mal d'années. Parfois, je me dis, Seigneur, fais-moi monter sur cette montagne et ouvre mes yeux sur ces choses à venir. J'aime beaucoup la géopolitique, essayer de comprendre comment l'Écriture nous parle de ces choses dernières, et c'est en les vivant qu'on va les comprendre, c'est en avançant, mais pour ça, je trouve que c'est bien de lire tous ces textes de l'Écriture. On lit un texte encore qui est lié à tout cela dans le livre de Zacharie, chapitre 14. C'est des choses peut-être parfois un peu difficiles. C'est Pierre qui dit, Paul a parlé dans ses épîtres de choses un peu difficiles. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas les lire, les travailler, les étudier. Zacharie, chapitre 14, les 9 premiers versets. Voici le jour de l'Éternel arrive, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient, à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, le septentrion, une moitié vers le sud, le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Azel. Vous fuirez comme vous avez fui depuis le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Il y aura du froid, de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Ce texte étrange était incompréhensible avant 1948. on a un très beau texte dans la fin d'Ésaïe qui dit « Et quoi ? En une seule journée, est-ce que Dieu pourrait faire revivre une nation ?» Jean-Marc m'a fait lire tout à l'heure Ézéchiel 37, les os qui se rapprochent avec des muscles, de la peau, et puis l'esprit souffle dedans. Israël est revenu à la vie en 48. Un jour, toutes les nations vont être énervées après Israël et Jérusalem. Et une grande coalition va venir et il y aura cette deuxième venue, ce retour du Christ Jésus. Pour moi, cette révélation est comme une montagne, quelque chose d'extraordinaire. Depuis quelques années, voilà, quand je vois l'état du monde, plutôt que de me lamenter, voilà, c'est de dire « Viens, Seigneur Jésus, viens. Maranatha, viens. Viens mettre la paix sur les nations. Viens mettre un temps de révélation. Fais-toi connaître. Prions pour que ce Christ, ce Messie, celui qui est loin de Dieu, soit connu de toutes les nations. Que l'Écriture soit traduite et que l'Évangile aille jusqu'à toutes les nations. Situation géopolitique est compliquée en ce moment. L'Écriture nous dit qu'à un moment donné, Israël, Jérusalem, sera au cœur du bouleversement des nations. Quelques semaines, un énorme séisme, sud de la Turquie, il est dit dans ce texte qu'il y en a eu un du temps d'Ozias, c'est toute une zone sismique. Sur l'Orient, j'ai connu deux séismes. Un quand j'étais petit, quand j'avais 7 ans, sauté dans mon lit. Et puis, il y a une vingtaine d'années, je traversais une rue à l'Orient, toute la ville a bougé. La Bretagne est sur des failles, sur des zones de séismes. Israël l'est aussi, et toute cette région du Moyen-Orient l'est aussi. Quand Jésus va revenir, il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, et une fracture va se faire. Ça peut paraître des choses folles, mais aujourd'hui, il y a plein de scénarios et de films, de catastrophes et d'autres. Je me dis, là, le retour de Jésus, c'est une belle catastrophe. En tous les cas, ça peut nous rassurer sur le devenir des nations. Nous sommes en relation avec celui qui est, qui était et qui vient. Nous sommes en relation avec cette montagne, ce Christ Jésus. Avant de partir, j'ai une feuille, là c'est écrit « Jésus-Christ, Alliance ». Je vais le découper. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole ? Dans l'Orient ancien, les gens prenaient les tessons de poterie, ils le cassaient, et pour sceller une alliance, eh bien, chacun prenait un morceau de tesson, des morceaux de parchemin, enfin, ce qu'ils avaient sous la main, qui était cassé, chacun en prenait un morceau, et puis ils disaient, eh bien, on fait alliance. Et le jour où il y avait une épreuve, un besoin, pour renouveler l'alliance. Tiens, Jenna, tu peux venir. Ça marche ? Voilà, ça marche. On peut relire ce qu'il y a d'écrit dessus. La montagne, c'est un symbole. J'en ai une partie. L'autre partie est en Christ. Et quand les deux sont ensemble, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix. Voilà, Christ cherche le Messie, le Christ à venir, cherche la paix pour toutes les nations, pour tous les peuples. Et ce que l'on voit aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous l'entendez aux nouvelles tous les jours. Ma génération a vécu en paix jusqu'en 2022. En disant, on n'aura plus jamais ça. quand j'étais encore gamin, dans les années 60, on parlait encore des Bosch, des Allemands. Aujourd'hui, l'alliance, la réconciliation avec l'Allemagne est pleine et entière. Et on pensait que ça allait durer. Aujourd'hui, les alliances s'éloignent, on a de la peine à recoller les morceaux. On ne se reconnaît plus. Symbole, c'est recoller, refaire alliance, recoller les morceaux. Diable, diabolos, c'est séparer. Détruire, faire que les gens ne reconnaissent plus leur alliance. Le meilleur symbole qu'il soit, la meilleure alliance qu'il soit, c'est celle avec le Christ Jésus. Quand on partage le pain, le vin, les évangiles nous disent, voilà, priez et dites, Maranatha, viens Seigneur Jésus, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que je revienne. Jean-Marc a parlé de ce repas qu'Abraham a fait avec Melchisédek. Ils ont partagé le pain et le vin, Melchisédek et le signe de cette alliance. Il y a eu une guerre et Abraham est revenu vainqueur. Les nations sont en guerre. Mais quand le Christ va revenir, il va mettre tout le monde d'accord. Et il y aura ce repas avec l'agneau de Dieu, ces noces de l'agneau, où tout va être réuni, juifs, non-juifs. Tous ceux qui croient en Jésus seront un seul. Il y aura un seul peuple nouveau. C'est bien mieux que tous les films catastrophes, que les Marvel et compagnie, avec tous ces héros qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Christ est capable, et voilà. Fils de Dieu va revenir et faire des choses extraordinaires. C'est une des espérances de l'Église, c'est mon espérance, je vous la partage. On continuera à voir dans la vie des hommes de Dieu, pour Abraham, Moïse, Élie, pour Jésus, c'est quoi cette expérience de la montagne? Elle est multiforme, c'est une alliance qui a pris plusieurs visages. Père Céleste, merci de cette élévation que tu nous proposes. Merci de pouvoir te rencontrer sur cette montagne en Christ. Merci d'être assis dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, merci d'illuminer nos cœurs. Continue à nous faire comprendre ta parole, comprendre les temps qui viennent. Pas pour fuir ou se cacher, mais voilà, pour pouvoir témoigner que cette bonne nouvelle voilà, soit répandue, que ta parole soit traduite, soit répandue à toutes les nations. Et ensemble, c'est vrai qu'on dit Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens.